continua Dio. Donc ce titre réunissait des pièces de la période baroque jusqu'à la période romantique, on va dire, de 1700 à 1820 à peu près. Est-ce que c'est correct?
Ouais, le Romberg, on ne sait pas exactement de quand ça date, c'est plutôt le début 19e, les premières années du 19e.
Début 19e.
Donc, disons 80 ans à peu près de répertoire. Parce que Bonparti et Plati, c'est à peu près les années 1720.
Et donc là, de manière générale, est-ce que vous pourriez en parler de ce répertoire?
Ce qui surprend, c'est cette instrumentation, le duo. C'est pas une instrumentation courante à l'époque baroque. Donc la référence continue à Dio, c'est un petit peu ironique. Mais c'est parce que à l'époque baroque, toute la musique est soutenue parce qu'on avait une basse continue. Donc une basse qui est réalisée avec un instrument harmonique. Donc dans la partition, il y a des chiffrages qui correspondent à des accords qui sont joués sur un clavecin ou sur un orgue. Et donc au fur et à mesure que le temps passe, il y a quand même des pratiques nouvelles qui apparaissent. Et le disque est articulé en deux facettes, si on veut dire. Il y a d'abord les duos pour violon et violoncelle, donc les premiers, que sont Plati, Bonparti, et après à l'époque classique, Albrecht Berger et Romberg. Et parallèlement à ça, il y a tout le répertoire de violon qui est immense. Et sous l'impulsion de Tartini, la pratique de l'accompagnement change. Justement, c'est le premier à spécifier qu'il veut un accompagnement au violoncelle seul. Voilà, ça nous a intrigués nous-mêmes. C'est quand même une curiosité, quelque chose de nouveau qui n'a pas été, qui n'a pas vraiment été exploré. Et donc, on s'est rendu compte que Tartini, il avait un ami violoncelliste qui s'appelait Vandini, avec lequel il se produisait en duo, vraiment. On s'est un petit peu identifié à ces deux-là. On a envie de retransmettre un petit peu ce qu'ils auraient pu faire à deux. Donc il y a Tartini, et dans le disque, il y a aussi deux de ses élèves, qui sont Nardinier et Laousset, en français. Voilà, il faut savoir que Tartini avait une énorme aura, une énorme influence, et a attiré vraiment les plus grands violonistes virtuoses de toute l'Europe. C'était le premier, vraiment, à vouloir transmettre vraiment son art, avoir une idée de l'enseignement qui préfigure un peu le conservatoire. La chose, c'est que vers la moitié du XVIIIe siècle, le langage du violon devient tellement riche et virtuose qu'en fait la basse devient un simple soutien très basique. Donc dans la partition, il n'y a pas grand-chose pour la basse, effectivement. Mais en réfléchissant aux deux musiciens qu'ils étaient, Vandini, donc ce violoncelliste, et Tartini, on peut pas croire que le violoncelliste se contentait de juste faire quelques petites notes. Donc ça a été notre recherche à nous de trouver un langage un peu nouveau, voilà, donc c'est ça qu'on défend, et donc Annabelle, pour ça, elle peut raconter un petit peu.
Voilà, pour chaque sonate, on a cherché comment accompagner, comment améliorer cette basse, comment rendre plus vivant, donc soit avec des accords, des doubles cordes, ou des séries de pizzes aussi pour apporter de la rythmique. Voilà, on a vraiment cherché pour chaque mouvement, comment bien mettre en valeur aussi le langage du violon.
Donc il y a aussi des imitations entre les violoncelles qu'on ajoute, qu'on improvise. Et puis il y a tout un travail sur l'ornementation aussi, donc qui concerne plutôt le violon, mais aussi le violoncelle qui peut se permettre aussi
de répondre,
de prendre la parole de temps en temps. Donc en ça, c'est un vrai duo, c'est pas juste un accompagnement. Il y a déjà quand même un répertoire pour violoncelle à l'époque baroque, déjà dès le XVIIe siècle, qui est minoritaire, mais il y a quand même des sonates de Vivaldi, de Geminiani, etc. Mais ce qui se passe à ce moment-là, donc vers la moitié du XVIIIe siècle, c'est que l'instrument s'émancipe vraiment de son rôle d'accompagnateur. Et le duo, c'est un peu le premier pas. Donc on oublie la doublure avec le clavecin ou l'orgue, et puis donc le violoncelle vole de ses propres ailes. Et puis le duo, ça annonce aussi après les trios à cordes, les quatuors à cordes, etc. Donc les formes classiques qu'on connaît bien après.
Et pourtant, par exemple, dans les trios de Haydn, c'est le violoncelle, c'est carrément la doublure.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
De la main gauche du piano. Ouais.
C'est vrai. Alors comment ça se fait alors?
Parce que, évidemment, les choses n'ont pas été complètement linéaires. En particulier dans les cercles amateurs, la basse continue, la pratique du clavecin était encore répandue. Comme je le dis dans la notice, les éditeurs ont continué à publier de la musique avec des chiffres. À mon avis, plus pour un cercle d'amateurs. Après, bien sûr, ça n'a pas été une rupture du jour au lendemain. Les choses ont mis du temps, sur quelques décennies, à évoluer. Donc Haydn, dans ses trios et pianos, c'est un peu un vestige de la basse continue, mais il y a quand même certains trios, il y a des solos, on peut en parler puisqu'on en a joué il n'y a pas longtemps.
Mais aussi parce que dans ces trios, il met beaucoup en valeur le piano. Ouais. Le piano est très virtuose aussi dans ces trios.
Donc, dans le livret, vous parlez de fameux « hauts » de Corelli.
Ah oui. Oui, parce que le titre est un petit peu ironique. Parce que Corelli, comme beaucoup d'autres, intitule le recueil de sonates pour violon avec un accompagnement de clavecin ou de violoncelle. Et si on regarde un peu les... Moi, en écrivant le texte, j'ai regardé un peu comment étaient présentées toutes les collections de sonates pour violon du XVIIIe siècle. Et ça change toujours, mais il y a toujours un peu cette idée qu'on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Et dans la pratique de la moderne, du baroque, on associe de façon quasi permanente violoncelle et clavecin. C'est devenu presque un standard depuis 30 ans. Donc on avait aussi un petit peu envie de bousculer cette idée reçue et de montrer qu'on pouvait très bien réaliser quelque chose de très intéressant à deux, sans que ça soit vide. Du coup, il y a aussi une idée du son qui est complètement différente, qu'on a cherché à construire ensemble, d'avoir un son qui correspond à celui de deux instruments de la même famille, qui est, à mon avis, très plein et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui est très intéressant.
Donc, à propos de la basse continue, comme vous dites, c'est aujourd'hui considéré comme une basse vraiment sacrée oui. De la musique baroque, mais c'était pas le cas, en fait, finalement, pas toujours à l'époque. Est-ce que les musiciens de l'époque avaient un esprit beaucoup plus ouvert que nous considérons aujourd'hui, encadrant un petit peu les choses dans
notre idée. Et de conservatoire un petit peu, donc on enseigne les choses, on dit qu'il faut que ça soit comme ci, comme ça. Je pense qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus pragmatiques. Ils faisaient en fonction de ce qu'ils avaient, des moyens qu'ils avaient. Ils n'avaient pas forcément un clavecin ou un orgue à disposition, ou à l'inverse, ils n'avaient pas forcément un violoncelliste. Donc voilà, les choses n'étaient pas du tout fixées comme on voudrait qu'elles le soient aujourd'hui. D'une ville à l'autre, on le voit avec les diapasons, avec les instruments, les archets par exemple. Il y a tellement de modèles différents. Donc voilà, tout ça est très vivant finalement et mouvant.
Ça transparaît sur la partition en lisant la partition, est-ce qu'on peut comprendre la différence?
Par exemple, chez Tartini, c'est très clair puisqu'il n'y a déjà pas de chiffres. Chez Laousset, par exemple, il n'y a pas de chiffres non plus, et puis il y a aussi des indications de phrasé, donc pour le violoncelle, pour la basse, des liaisons, c'est la preuve que c'est un langage d'instrument à cordes, un instrument voilà, mélodique. Ça va un petit peu avec ce que je disais avant, l'évolution du style, le fait que la partie de dessus est quand même très importante. C'est un peu l'évolution vers le classique, où l'harmonie est peut-être un peu moins importante, mais au profit de la ligne, de la mélodie plutôt. Et, par exemple chez Tartini, c'est très présent, c'est à la fois très virtuose, mais très mélodique, toujours très au service de l'expression. Et c'est ce qui entraîne aussi la simplification de notre point de la basse.
Vous avez parlé
des élèves.
Donc ce sont des musiciens, enfin des compositeurs qu'on ne connaît pas tellement.
Oui.
Est-ce qu'à l'époque c'était quelqu'un de...
Nardini a été quelqu'un de très connu. C'était un grand compositeur qui a été ami de Tartini toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, qui a beaucoup voyagé, qui a composé. Aujourd'hui, dans les conservatoires, on étudie les œuvres de jeunesse, des pièces de Nardini. C'est un compositeur qui valent la peine d'être découvert. C'est lui qui a écrit les premiers quatuors à cordes en Italie, par exemple. Oui, c'était tout à fait important. Laousset, on sait un peu moins, mais on sait que c'était un grand virtuose qui a occupé des postes importants au concert spirituel à Paris, qui a absolument cherché à rencontrer Tartini parce que c'était la grande figure de l'époque, qui a contribué à diffuser un peu son art en France. Et voilà, enfin, c'est des gens qui... C'était pas juste des élèves de Tartini, ils ont eu des carrières très importantes. Bon, Laousset, on a perdu beaucoup de ses œuvres malheureusement, donc moi-même, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. ne savais pas qui il était. Souvent, on fait des découvertes un peu par ricochet, on cherche, on voit une partition. Et là, c'était par exemple, c'est à l'époque romantique, un violoniste qui s'appelle Voldemar. Donc, c'est dans les années 1820-30 qui a écrit une méthode pour le violon et qui a composé c'était pas des tombeaux, c'était
Des tombeaux.
En tout cas, des pièces en hommage au plus grand violoniste de la fin du 18e. Donc, il y a Tartini. Il y a Nardini, il y a Lolli, il y a ses compositeurs. Et dans celui sur Tartini, il mentionne le nom de Laoucé. Je ne sais plus ce qu'il en dit exactement. Mais donc c'est comme ça que je suis tombé sur ce nom-là. Et du coup, j'ai cherché et trouvé un recueil de sonates.
Vous avez cherché dans les bibliothèques sur Internet?
Oui, sur Internet, déjà, on trouve. Mais encore faut-il connaître l'existence.
Et il y a des œuvres comme ça de Buonsel aussi qu'on découvre vraiment.
Par exemple, les caprices de Dallabaco, on les étudie pas du tout dans les conservatoires, mais c'est des caprices importants pour l'instrument. Il y a eu quand même beaucoup de musique instrumentale pour le violoncelle, déjà au 17e en fait.
Comme j'ai dit tout à l'heure, donc là, j'ai été vraiment frappée par la richesse du son.
Ben oui, comme on est habitué justement à ce son avec un clavecin ou un orgue, c'est une couleur qui n'a rien à voir. Si on enlève l'instrument harmonique, au début on se retrouve un petit peu à nu. C'est vraiment à nous de recréer un son d'ensemble, même si on n'est que deux. Mais, c'est quand même une musique qui est souvent très polyphonique pour le violon, donc ça veut dire avec beaucoup de doubles cordes. Donc on ne joue pas à deux voix, on joue souvent à au moins à trois voix, voire à quatre voix quand même. Donc c'est quand même très riche harmoniquement. Et parfois, au moment où on trouvait que c'était peut-être un petit peu moins riche, on a cherché à développer notre langage en ajoutant les pits, les doubles cordes à la basse aussi.
Des motifs un peu rythmiques.
Je pense qu'on est attaché à l'idée du son, à l'idée des caractères. Donc chaque pièce, surtout à cette époque-là, vraiment exprime quelque chose. Chez Tartini, c'est vraiment quelqu'un qui est sensible à la nature, à la voix. Il accompagne souvent ces mouvements-là d'un petit poème en langage codé. Donc, il y a une recherche vraiment de l'expressivité. Donc, c'était un petit peu notre fil conducteur. Et, je pense que tous les deux, on est sensibles à ça. Et aussi aux couleurs que chaque pièce exprime déjà avec les tonalités. On sait qu'à l'époque, ils choisissaient pas une tonalité par hasard. Par exemple, la sonate de Nardini en do mineur, elle exprime vraiment quelque chose de tragique, de très, très sombre. Les chromatismes de Bonporti, par exemple, en la mineur, très torturé. Donc voilà, chaque pièce a vraiment sa personnalité. Et à deux, comme ça, c'est finalement plus facile de faire ressortir ces différents caractères. C'est vraiment l'essence de la musique, quoi, l'expression, ce que ça peut transmettre. Là, c'est un programme qu'on a mûri pendant 3-4 ans, qui a évolué beaucoup, des pièces sont arrivées, des découvertes sont arrivées pour enrichir le programme, pour l'élargir. Au début, on n'allait pas jusqu'à l'époque romantique, par exemple.
Pourquoi vous êtes allé à l'époque romantique?
Parce que les duos pour violoncelle et violon se développent beaucoup à ce moment-là.
Oui.
Il y a une vraie pratique. Et le violoncelle, donc. Peut-être dire sur Romberg un petit peu.
Romberg, il était très très réputé à l'époque, c'était un grand professeur aussi, d'ailleurs on l'étudie beaucoup, même en tant qu'enfant maintenant au conservatoire, des concertinos, des sonates de Romberg. Et c'est vrai qu'on a découvert ces duos, on en a lu quelques-uns et on a trouvé ça très beau, très touchant, on aimait beaucoup la couleur que ça apportait, le caractère. Donc voilà, on a essayé de. On a eu envie de l'enregistrer.
Sinon, la différence aussi par rapport à une pratique d'ensemble, disons plus classique, c'est voilà, on a eu le temps de mûrir ce programme, donc et on a eu envie de construire quelque chose de personnel. Alors d'habitude, pour un projet normal, on a quelques jours de répétition et c'est le concert, et puis après, on passe à autre chose. Donc là, avant d'arriver sur les micros, il y a une vraie recherche.
Et vous avez d'autres projets comme ça d'explorer un répertoire, disons, méconnu?
Ben là, on finit juste un enregistrement. Hier, on a fini, puisque l'année prochaine, ce sera le 150e anniversaire de la mort de Tartini. Donc ce sera notre troisième disque un petit peu en duo, ce sera un peu une trilogie si on peut dire, ces trois disques autour de Tartini et de sa, et donc de sa, son entourage, sa sphère d'influence. Et c'est des sonates pour violon et basse qu'on interprète en duo de nouveau. Et des sonates inédites donc, qui n'ont jamais été enregistrées et qui sont absolument incroyables. Et je pense que ce sera une belle découverte. Voilà. On a fait le tour.
Oui, on a fait le tour. Voilà.
Très bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.